Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
En fait, ce qui crée une inquiétude auprès des Chinois, c'est que le nombre de cas progresse dans d'autres villes chinoises. Le virus est maintenant apparu à Pékin, également à Shanghai ou tout au sud de la Chine, vers Shenzhen.
Il y a presque 2 ans, le 24 janvier 2020, la story des Échos consacrait pour la première fois une émission à un petit virus chinois. Certains parlaient encore à l'époque d'une grippette. Le titre, la Chine et le monde à l'épreuve d'un nouveau virus. Je n'imaginais pas alors à quel point le coronavirus de Wuhan allait bouleverser le monde et l'activité humaine. Je luttais à l'époque contre un petit rhume, un symptôme bénin. Rien à voir avec un virus, le Covid-19, responsable du décès d'au moins 5,5 millions de personnes dans le monde. C'est cet épisode que je vous propose de réécouter ce week-end avec Jean-Claude Manuguera de l'Institut Pasteur, Nicolas, ingénieur à Wuhan, Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Pékin, et le plaisir et l'occasion aussi d'entendre la voix de Michel Degrandy, que je salue amicalement ici. Bonne écoute, je vous donne rendez-vous lundi pour une série d'émissions exceptionnelles sur ce virus qui perturbe le monde depuis 2 ans.
2003年爆发 SARS 疫情，许多人都记忆犹新。这次跟 SARS 同是冠状病毒的武汉肺炎，传染力又有多强
？Behind the police tape, this normally crowded market in the central China city of Wuhan sits eerily desolate.This is ground zero for the illness sparking global unease.
Oui, absolument alarmant par le nombre de nouveaux cas confirmés ce mercredi matin qui a vraiment fortement augmenté et avec cette annonce sur le fait que ce virus peut muter et se propager plus facilement.
Ça sonne un peu comme un film catastrophe. Un virus d'origine inconnue, une infection qui progresse, des premiers morts, un risque de pandémie. Une ville de 11 millions d'habitants coupée du monde et on cherche le héros qui évitera la catastrophe. Au hasard, Brad Pitt.
Vite, on ne peut pas rester là.
Je vous rassure, pas question de céder à la panique ou de faire dans le sensationnalisme. Mais la menace d'une pandémie est prise au sérieux. La découverte d'une nouvelle souche de coronavirus en Chine a déjà fait une bonne vingtaine de victimes et rappelle le douloureux épisode du SRAS il y a presque 20 ans. Un virus qui avait causé la mort de près de 800 personnes. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. On fait le point sur ce risque biologique qui inquiète l'OMS. Il s'appelle le 2019-NCOV ou plus simplement le coronavirus de Wuhan, du nom de la ville où il serait apparu en décembre dans un marché aux bestiaux. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est réunie en urgence et a tranché après 2 jours de débat.
Now is not the time.
Il est encore un peu tôt pour considérer que cet événement est une urgence internationale de santé publique.
C'est donc une urgence en Chine, mais pas encore une urgence au niveau mondial, a prévenu le directeur général de l'OMS, que l'on a entendu dans cette vidéo de France Télé. Mais il a aussi ajouté « cela pourrait le devenir ». Plus que jamais, le coronavirus est sous surveillance. Comme beaucoup de mes confrères journalistes, j'ai appelé l'Institut Pasteur à la pointe de la recherche contre les maladies infectieuses. Pour comprendre la nature du risque, mais aussi pour savoir comment l'Institut réagissait à la découverte d'un nouveau virus. Depuis le début du XXIe siècle, seulement 2 épidémies mortelles de coronavirus ont frappé la planète. Le virus de Wuhan pourrait devenir le 3e. Jean-Claude Manuguera est directeur de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Cette cellule est chargée depuis 2002 de répondre aux urgences biologiques spécialisées. Son directeur a pris un peu de son temps pour répondre mercredi à mes questions par téléphone.
Alors, un coronavirus, d'abord, donc, c'est un virus, donc c'est un parasite obligatoire qui ne peut pas se passer d'un hôte à infecter pour vivre. Et donc, il y a des virus de tout. Il y a des virus de bactéries, des virus de cellules et donc des virus de à peu près tout ce qui existe sur Terre. Et donc, ces coronavirus ont la particularité d'avoir une constitution qui est relativement proche de la grippe ou de la rage, si vous voulez. Ce sont des virus qui ont donc un patrimoine génétique qui repose sur de l'ARN et non sur de l'ADN comme chez les humains, par exemple. Et puis, ce sont des virus qui sont enveloppés d'une bicouche lipidique qu'ils prennent quand ils sortent des cellules infectées. Et à la surface de cette enveloppe, nous avons des spicules, une espèce de poils, qui, lorsqu'on regarde ces virus en microscopie électronique à transmission, leur donnent l'allure de couronne, d'où le nom de coronavirus. Et ce sont des virus qui sont soit respiratoires, soit entériques.
Mais comment ils se transmettent, justement ?
Alors, ça dépend si c'est entérique ou respiratoire. Lorsqu'ils sont respiratoires, ils se transmettent essentiellement par gouttelettes, aérosols ou manuportage.
Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce virus, le coronavirus de Wuhan ?
Alors, on en sait beaucoup par rapport à ce qu'on aurait pu savoir il y a 17 ans, enfin un temps si court. On connaît son génome complet, donc on connaît son patrimoine génétique complet. On sait que c'est un très proche cousin ou presque frère du virus du SRAS, hein, donc il avait sévi en 2002-2003 déjà en Chine. On sait donc que c'est un virus qui cause des symptômes respiratoires. On ne connaît pas encore tout l'éventail des symptômes qui sont provoqués par ce virus. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre sur ce virus et notamment, il faudra être vigilant quant à son évolution éventuelle.
La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il pouvait se transmettre d'humain à humain ? A priori, ce n'était pas le cas pour les coronavirus.
Alors, si, il y a beaucoup de coronavirus qui se transmettent d'humain à humain. Dans le même genre, vous avez d'autres virus du rhume, par exemple, un virus qu'on appelle barbarement OC43 et qui donne juste des rhumes. Vous avez aussi un autre virus dans le même genre, qui est le virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et qui est apparu en 2012, qui est aussi un virus respiratoire qui se transmet entre humains. Et puis, donc, ce virus, au départ, on n'avait pas de notion de transmission interhumaine, mais depuis, force est de constater qu'il y a eu des transmissions interhumaines. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'étendue et l'efficacité de cette transmission interhumaine. Et ça, c'est un élément, un caractère qu'il va falloir surveiller et quantifier très vite.
À partir de quand l'Institut est-il averti d'un risque potentiel lié à un virus d'origine inconnue, comme c'était le cas ?
Alors, je n'ai pas la date en tête, mais vous savez, tous les instituts ont été prévenus pratiquement en même temps, puisque les réseaux sociaux en ont parlé, les organisations internationales aussi ont partagé via les réseaux sociaux également, et donc très très vite nous avons été alertés sur l'existence de ce nouveau virus, avant même d'ailleurs que nous connaissions exactement sa nature, donc coronavirus, et que nous connaissions sa séquence, qui a été très très vite d'ailleurs partagée par les autorités chinoises, notamment nos collègues de l'Institut de virologie de Wuhan.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'Institut ?
Alors, à l'Institut, comme dans toutes les institutions qui sont partie prenante dans la lutte contre les épidémies, il se passe comme un peu partout aussi, hein, c'est-à-dire on fait des réunions pour savoir quelles sont les informations qu'on peut partager, parce que chacun d'entre nous a des spécialités différentes, et c'est la confrontation des données des différentes disciplines qui nous permettent d'avancer entre épidémiologistes, virologistes, acteurs de la santé publique, et puis nous entrons aussi en contact avec nos collègues, soit de Santé publique France, soit de l'Organisation mondiale de la santé, ou évidemment du ministère de la Santé. Et en interne, nous organisons donc comment nous allons riposter, en sachant que nous avons déjà une organisation qui marche notamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'Institut Pasteur. Nous avons aussi le centre de référence et donc nous avons déjà des protocoles pour la prise en charge de patients et de prélèvements, surtout à l'Institut Pasteur, de virus similaires. Et donc, ce que nous faisons, c'est nous adaptons nos protocoles qui existent déjà avec les données spécifiques de ce nouveau virus qui évolue de jour en jour et même d'heure en heure.
Un virus inconnu proche du SRAS, il a été détecté en Corée du Sud, au Japon, à Shanghai, en Thaïlande et dernière en date, en Australie, où une personne a été mise en quarantaine.
Jean-Claude de Manuguera, l'idée, c'est déjà d'être prêt si le virus arrive sur le sol européen ?
Alors évidemment, pour ce qui nous concerne, nous sommes dans le diagnostic et l'analyse de la situation. Pour le diagnostic, évidemment, vous savez, très très vite, des cas suspects peuvent arriver en France. C'est arrivé par exemple pour son prédécesseur, un autre coronavirus celui du Moyen-Orient, qui est apparu en 2012. Nous avons eu deux cas en France, qui étaient évidemment des cas importés. Et puis, nous savons que nous avons des liaisons directes entre l'épicentre du phénomène qui est Wuhan et Paris. C'est une des quatre liaisons entre Wuhan et des pays européens. Donc, on peut s'attendre du jour au lendemain à avoir débarqué un cas suspect, d'autant plus que nous sommes en période de circulation grippale. Et donc, nous risquons de voir arriver des gens qui ont la grippe et qu'on peut prendre pour des gens infectés de ce nouveau coronavirus. Et donc, effectivement, nous sommes tenus, avec le centre de référence et avec mon laboratoire, qui est la suite d'intervention biologique d'urgence, prêts à recevoir les échantillons à n'importe quel moment du jour, de la nuit, de la semaine.
Alors, la difficulté pour le contrôle des passagers, c'est évidemment le problème du temps d'incubation qui dure plusieurs jours. L'Institut va donc mener des analyses, mais la question que beaucoup se posent, c'est celle de la recherche d'un vaccin.
Alors non, ce n'est pas du tout l'objectif de mon laboratoire. Pour l'instant, on ne sait pas encore assez de choses sur le vaccin. Par contre, d'autres collègues travaillent sur le décryptage du génome et notamment de savoir quel est le récepteur de ces virus, qui apparemment pourrait être le même que celui du SRAS. Donc, ça indique quelle partie des organes le virus va infecter. Et donc, pour l'instant, la recherche sur le vaccin est un peu prématurée, d'autant plus que nous sommes quand même, pour relativiser les choses, un nombre de personnes infectées dans le monde qui est extrêmement faible.
Oui, vous avez beaucoup appris des précédentes épidémies, le SRAS ou le MERS ?
Alors, nous avons surtout appris du SRAS, puisque à l'époque, nous avions un règlement de sanitaire international qui était vieux et qui était extrêmement rigide, puisqu'il ne tenait en compte que les maladies qui étaient listées comme maladies importante et qui nécessitait une coopération internationale. Avec le SRAS, on s'est aperçu que finalement, quand apparaissait un virus nouveau, eh bien on était désolé parce qu'on n'avait pas d'outils internationaux pour pouvoir coordonner les pays et lutter contre un nouvel agent. Il a été conçu un nouveau règlement de sanitaire international qui a été mis en place à partir de 2009 et qui tient en compte le fait qu'un virus nouveau peut apparaître et qui donne plus de souplesse et un algorithme d'interprétation des données pour aboutir à des décisions. Donc, nous avons ce nouveau règlement sanitaire international. Entre-temps, nous avons aussi acquis des techniques qui n'existaient pas en 2003 et qui font qu'on va beaucoup plus vite pour l'identification du virus. Les Chinois étaient quand même extrêmement rapides dans l'identification du virus. Une fois qu'ils avaient détecté des cas, parce que le problème, c'est que probablement il y avait des cas avant qui sont passés sans avoir été détectés, mais donc nous avons beaucoup plus vite. Donc nous avons des protocoles de prise en charge à la fois des patients et des prélèvements qui sont en place tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en France, et notamment à l'Institut Pasteur, pour ce qui concerne les prélèvements, et les modulant en fonction des spécificités de ce nouveau virus que nous découvrons d'heure en heure.
Le virus ressemble donc au SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, une maladie infectieuse des poumons. En 2002-2003, le SRAS avait fait près de 800 morts dans le monde, dont plus de 80% en Chine et à Hong Kong. Lundi dernier, le président chinois Xi Jinping a sonné la mobilisation générale à l'approche du Nouvel An chinois le 25 janvier. J'ai repris mon téléphone pour appeler le correspondant des Échos à Pékin, Frédéric Schaeffer, pour prendre des nouvelles.
Les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. Le bilan ne cesse de s'aggraver. Les autorités chinoises ont fait état mercredi de 9 morts et de 450 patients porteurs du coronavirus. Alors en fait, ce virus a été repéré en décembre à Wuhan, qui est une ville de 11 millions d'habitants dans le centre de la Chine. C'est dans cette ville que se trouvent la plupart des cas repérés. Et c'est également dans cette province de Hebei qu'ont été recensés les morts actuellement. Depuis, en fait, ce qui crée une inquiétude auprès des Chinois, c'est que le nombre de cas progresse dans d'autres villes chinoises. Le virus est maintenant apparu à Pékin, également à Shanghai ou tout au sud de la Chine, vers Shenzhen. Donc il y a une diffusion importante du virus à travers la Chine et ce virus dépasse maintenant les frontières puisque des cas sont recensés aux États-Unis, à Taïwan, en Thaïlande, en Corée du Sud et encore au Japon. En fait, ce qui inquiète beaucoup les autorités chinoises, c'est la perspective des vacances du Nouvel An chinois de l'entrée dans l'année du rat qui aura lieu ce samedi. À cette occasion, des centaines de millions de Chinois vont envahir les gares et les aéroports pour retourner dans leur famille ou pour voyager à travers le monde. et ces déplacements vont fortement accroître le risque de propagation de l'épidémie.
On parlait du SRAS, le souvenir est encore très présent en Chine ?
Oui, le souvenir du SRAS est très présent. Il faut savoir que cette pandémie qui a eu lieu en 2002-2003 avait quand même tué 648 personnes en Chine continentale et à Hong Kong. En fait, c'est aussi un souvenir très prégnant parce que la population chinoise garde en mémoire qu'à l'époque, les autorités avaient caché la vérité pendant plusieurs semaines, ce qui avait permis à la maladie de se propager.
Ça fait la une des médias aujourd'hui en Chine ?
Pendant plusieurs semaines, ce virus n'a pas fait la une des médias. Il y a un vrai changement de tonalité depuis lundi. En fait, lundi, le président chinois Xi Jinping s'est personnellement impliqué dans le dossier, appelant à ce que tout soit fait pour éradiquer l'épidémie. De toute façon, il y avait un intérêt politique à évoquer cette crise et à faire preuve de transparence parce que sur les réseaux sociaux chinois, ce sujet ne cesse de monter et on voit que l'inquiétude grandit parmi la population aussi parce que les Chinois, de plus en plus, se sont ces derniers jours précipités dans les pharmacies et les supermarchés de Pékin, mais aussi des autres villes, pour acheter des masques et des produits désinfectants. Dans une pharmacie, là, ce matin à Pékin, une pharmacienne me racontait que ses clients lui avaient même demandé si elle pouvait prendre des réservations parce qu'elle n'avait plus de masques à offrir. Son fournisseur est en rupture de stock, elle ne sait plus du tout elle-même où trouver de nouveaux masques.
Mais quand vous sortez dans la rue, tous les gens portent un masque ?
Alors, tous les gens ne portent pas de masque. Il n'y a pas non plus de panique en Chine. C'est une inquiétude qui est croissante. Par contre, c'est vrai qu'on observe quand même, là, ces derniers jours, plus de gens que d'habitude qui portent des masques. D'habitude, certains Chinois portent des masques plutôt pour lutter contre la pollution. Là, on voit une recrudescence des masques en papier ces derniers jours par mesure de prévention face à l'épidémie. On voit également que sur le YouTube chinois, les vidéos consacrées au sujet du virus sont désormais plus populaires que les vidéos des célébrités ou les vidéos consacrées aux cosmétiques. Les entreprises également se préoccupent du sujet. Dans une entreprise de publicité à Pékin, une employée me disait ce matin qu'elle avait reçu un mail de son employeur pour l'autoriser à travailler au domicile jusqu'au congé du nouvel an. Dans d'autres entreprises, il y a des masques qui ont été distribués également aux employés.
Depuis que j'ai parlé avec Frédéric au téléphone, tout s'accélère. Et c'est ce qu'il y a d'inquiétant avec ce virus. Pékin a ainsi annoncé jeudi l'annulation des festivités du Nouvel An chinois qui démarre vendredi pour une semaine. La cité interdite a fermé aussi ses portes jusqu'à nouvel ordre, tout comme le parc Disneyland de Shanghai. Les autorités chinoises prônent la manière forte pour éviter la propagation du virus, allant jusqu'à mettre en quarantaine des villes entières. C'est le cas de Wuhan, 11 millions d'habitants, d'où serait originaire le virus. Une mesure radicale, difficilement imaginable vue de France. Une ville à l'arrêt, selon France 24.
Pour endiguer l'épidémie, les mesures sont drastiques. Interdiction à ces 11 millions d'habitants de sortir de chez eux, sauf dérogation spéciale. Tandis que la circulation des trains et les avions reliant la ville à l'extérieur est suspendue.
Aux Échos, Gabriel Nedelec est venu me voir. Il travaille au service Marché Finance et il m'a raconté qu'un de ses amis travaillait depuis 4 ans à Wuhan comme ingénieur. Il l'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles et m'a communiqué son numéro. Il s'appelle Nicolas.
Ça va très bien pour le moment. J'espère que ça ne va pas changer.
Comment est-ce que ça se passe ? C'est impossible de sortir de la ville ?
Alors, c'est possible de se déplacer dans la ville, mais tous les transports en commun, métro, bus, train pour sortir de Wuhan ou aéroport sont fermés depuis 10 heures ce matin, oui.
Comment est-ce que vous avez été prévenu ?
Par des messages de réseaux, principalement entre étrangers, puis très vite par les news, que ce soit française ou ici sur place. Donc assez étonnant, on en rigolait presque la veille en se disant que ça allait être une quarantaine, mais finalement, ça arrive réellement.
Qu'est-ce que ça a changé pour l'instant, pour vous ?
Alors pour moi, pas grand-chose, mais j'imagine que pour les Chinois, notamment, qui partent généralement à cette période voir leur famille, donc ça les empêche d'avoir un moment en famille pour fêter cette nouvelle année. Pour moi, le changement principal, c'est mon départ en vacances qui était prévu lundi prochain, qui semble compromis.
Qu'est-ce que vous faites du coup ? Vous allez au travail. Non, mais on a du mal, nous, à se rendre compte, effectivement, de ce que ça veut dire, une ville mise en quarantaine.
C'est encore un peu nouveau. Donc, mon entreprise nous a demandé de ne pas venir travailler, ou en tout cas de travailler à distance. C'est pris très au sérieux par les entreprises. Et dans la rue, l'ensemble des commerces sont fermés. Après, c'est assez difficile de savoir si c'est en raison du Nouvel An chinois, parce que beaucoup de commerces sont fermés à ce moment-là. Mais voilà, c'est très, très, très calme.
Vous avez eu des nouvelles, vous, de l'ambassade ?
Oui, ils nous fournissent toutes les informations officielles. Donc, on est au courant via notamment WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp, qui a des groupes de Français sur lesquels les représentants du consulat nous donnent les dernières informations officielles et essaient de contenir les différentes rumeurs qu'il pourrait y avoir.
Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, justement, autour de cette maladie ?
Bah, c'est difficile de faire la part entre les rumeurs et les informations officielles. On peut voir énormément de vidéos passer. On ne sait pas si c'est des vidéos qui ont été prises au moment du SRAS en 2003 ou si c'est des vidéos plus récentes. Sur ça, heureusement qu'on a le consulat qui essaie de clarifier les informations rapidement.
Depuis l'annonce de la fermeture des portes, si je puis dire, vous êtes sorti, vous êtes allé voir comment c'était ?
Oui, je suis sorti faire quelques courses quand même parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. On peut voir encore pas mal de personnes dans les rues, quasiment toutes avec un masque. Beaucoup de personnes font les courses, peut-être déjà pour avoir de quoi passer le Nouvel An en famille, mais aussi pour peut-être faire quelques réserves si ça continue pendant quelques jours ou semaines.
Quand vous avez appris l'arrivée de ce nouveau coronavirus, il y a quelques jours, hein, ça a été révélé, et que ça venait de la ville où vous étiez, vous vous êtes dit quoi ?
Pas grand-chose, on ne prend pas ça très au sérieux, je pense, au départ. Puis plus les news tombent de jour en jour, plus on se rend compte que finalement, c'est peut-être plus sérieux que ce qu'on pense. Mais voilà, la première impression n'a pas été la peur ou quoi que ce soit. C'est juste étonnant qu'on parle de Wuhan, en particulier dans les journaux en Europe, ce qui reste assez rare.
En tout cas, vous-même, vous avez l'air assez calme face à cette situation.
Bah, c'est difficile de réagir autrement, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je ne sais pas. On ne se rend pas vraiment compte de l'échelle du virus, si c'est grave ou pas grave. On essaie de suivre les conseils qu'on nous donne. C'est difficile de répondre. J'en discute avec mes amis qui sont tous coincés. Et pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude, hein, mais en effet, on se demande combien de temps ça va durer et s'il n'y aura pas d'autres restrictions à suivre. Voilà, on est un peu dans le flou. On nous conseille de rester cloîtré, c'est un peu fort, mais le plus possible chez nous, sortir si on en a vraiment besoin. Pour le moment, on va suivre ces conseils en évitant les contacts avec d'autres personnes ou la foule.
Alors que la ville de Wuhan est en quarantaine, j'ai lu dans une dépêche AFP que la Chine va construire en 10 jours un hôpital de 25 000 mètres carrés dans cette ville pour accueillir un millier de patients souffrant de cette pneumonie virale. Le monde est donc en alerte face à ce nouveau virus, même si celui-ci semble pour l'heure moins agressif que le SRAS et surtout que le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui avait fait 858 morts. Son taux de mortalité serait heureusement bien moins élevé. Un tiers des malades du MERS avaient ainsi perdu la vie.
C'est bien plus qu'un symbole, la cité interdite le redevient vraiment, fermée au public jusqu'à nouvel ordre.
Des villes en quarantaine, des réseaux de transport à l'arrêt, des festivités du nouvel an annulées à un moment clé pour le pays. La Chine, déjà pénalisée par la guerre commerciale avec les États-Unis, affronte une nouvelle épreuve qui pourrait perturber son économie. S'il est bien sûr trop tôt pour tirer les leçons de cette crise sanitaire, je me suis demandé si l'économie chinoise pouvait être fragilisée, comme ce fut le cas en 2002 avec le SRAS. J'ai donc demandé à Michel de Grandy, journaliste aux Échos, s'il y avait des raisons d'être inquiet.
S'inquiéter, oui, pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue sanitaire, parce que cette épidémie a l'air de s'étendre très rapidement. Et donc, on peut aussi s'inquiéter des conséquences. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit que la Chine agit de façon extrêmement efficace. Elle a mis la ville de Wuhan, là où le virus s'est développé, en quarantaine. Enfin, plus qu'en quarantaine, elle a fermé la ville au mouvement d'entrée et de sortie. Il y a des manifestations, effectivement, pour le Nouvel An qui sont annulées. Donc, il y a de toute manière déjà des conséquences à très court terme. Après, on va voir comment les choses évoluent. Il est certain que assez rapidement, le tourisme va en pâtir parce qu'il y a quand même pas mal de destinations qui vont être fermées. Aujourd'hui, la cité interdite à Pékin est fermée jusqu'à nouvel ordre. Donc, le tourisme est forcément la première victime. Au-delà, il y aura bien sûr des échanges de milieux d'affaires. Il y a des colloques qui sont organisés dans les grandes villes qui vont être annulés. Il y a quand même beaucoup de manifestations dans les prochaines semaines qui vont être quand même suspendues à l'évolution de ce virus.
Difficile hein, de connaître effectivement les conséquences économiques. Si on se base sur ce qui s'était passé en 2002-2003 avec l'épidémie de SRAS, quelles avaient été les conséquences à l'époque ?
Les conséquences, elles avaient été économiques, c'est certain. Pourquoi ? Parce que la Chine, après avoir longtemps cacher l'existence de ce virus. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les autorités de Pékin ont mis un mois avant de reconnaître l'existence du premier cas, ce qui est quand même énorme quand on voit la vitesse à laquelle se répand cette épidémie.
Ce qui tranche avec le cas aujourd'hui, hein, où
voilà,
ça est allé beaucoup plus vite.
Aujourd'hui, hein. Les autorités jouent la transparence. On ne sait pas si les chiffres qu'ils donnent sont exacts, mais au moins, il y a une volonté de transparence parce que 17 ans plus tôt, le fait d'avoir caché comme ils l'ont fait a quand même coûté très cher à la Chine. Ça a coûté, en termes de coûts de santé publique et d'impact sur le PIB, le coût a été évalué par la Banque asiatique de développement à 4 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'Asie, le coût a été de 18 milliards de dollars parce que il y a eu un coût extrêmement important supporté par Hong Kong. Donc, il y a forcément des effets sur l'économie, mais il y a aussi des effets sur l'image du pays. Pourquoi ? Parce que déjà, en 2003, la Chine a caché. Et c'est sous la pression de l'Organisation mondiale de la santé et, il faut le dire aussi, de la presse internationale, que vers la mi-avril de cette année 2003, les autorités chinoises ont entamé une opération vérité qui a conduit immédiatement à multiplier les chiffres par 10 et donc à semer en même temps une panique parmi la population, une panique qui se retrouvera aussi dans la vie des entreprises. Il faut se souvenir qu'à cette époque, ça faisait 2 ans que la Chine était rentrée à l'OMC, elle avait réussi son entrée dans la globalisation, elle faisait un peu office de bon élève, tout le monde regardait la Chine. Soudain, avec ce virus, on a vu des cadres supérieurs pris de panique qui se sont envolés vers des destinations comme le Canada ou l'Australie, où ils avaient un autre passeport qui leur permettait d'aller se mettre à l'abri et leur famille. On a vu des entreprises entières laissées en déshérence par leur cadre supérieur. Et donc, tout le monde s'est dit, y compris les entreprises étrangères, elles se sont dites, mais finalement, ce pays qui avait l'air d'être mis sur des rails, qui se développait avec des taux de croissance à faire rêver plus d'un pays occidental, eh bien, finalement, est-ce qu'il n'était pas en train de reposer sur du sable ? Et donc, l'image de la Chine, à ce moment-là, a vraiment été écornée.
Mais depuis, l'économie chinoise a changé ?
En fait, c'est toute la structure du pays qui a changé. Il faut voir qu'aujourd'hui, la Chine dispose à peu près des 2/3 du réseau mondial de trains à grande vitesse. Ce qui fait que les échanges à l'intérieur de la Chine, et on va le voir dans les prochains jours, puisque le nouvel an lunaire est à la fin de la semaine, toutes les familles se regroupent, donc il y a énormément de voyages à l'intérieur du pays. Donc, c'est un pays qui, aujourd'hui, se déplace bien plus rapidement qu'il y a 17 ans. Les réseaux sociaux permettent de corriger les manques ou les errances des organisations officielles sur les chiffres, sur les situations. Donc, c'est un pays qui peut bien plus difficilement qu'il ne le faisait en 2003, cacher la vérité.
Et c'est un pays qui a changé économiquement et qui fait qu'il serait aujourd'hui plus apte à supporter les conséquences d'une telle crise sanitaire ?
Il est encore tôt pour le dire parce que, oui, le pays a changé sur le plan économique. Maintenant, il faut voir comment ce virus va paralyser l'économie. La ville de Wuhan, par exemple, qui est dans le centre du pays, c'est la ville des Français par excellence. Pourquoi ? Parce que depuis les années 90, c'est là que se trouvent les usines du groupe Citroën. Donc, il y a énormément de Français à Wuhan. Il y a des échanges entre universités. Enfin, il y a beaucoup de choses. La France, par exemple, est le seul pays européen avec l'Italie à avoir des vols directs entre cette ville et Paris ou Rome. Ce qui fait qu'il y a effectivement des échanges particuliers. Cette ville de 11 millions d'habitants est aujourd'hui complètement isolée. Quelles vont être les conséquences ? Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Mais il est certain qu'à moyen terme, d'ici la fin de l'année, on verra comment ce virus a impacté l'économie chinoise.
Alors, on parle de la Chine, mais il y a une autre composante de la Chine, c'est Hong Kong, qui avait été durement touchée aussi par le SRAS. On l'a un peu oublié, mais il y avait quasiment eu autant de morts qu'en Chine continentale. Est-ce que le choc pourrait être plus dur à supporter en cas d'arrivée de ce virus à Hong Kong pour la cité?
Alors, Hong Kong est déjà lourdement frappée par les manifestations pro-démocratie qui durent depuis des mois. Et donc, l'économie est déjà fortement fragilisée. Il est sûr qu'une crise sanitaire qui vient se greffer à cette situation ne peut qu'avoir des effets encore plus négatifs. Donc, effectivement, Hong Kong est une cible potentielle. Il y a, en 2003, le coût payé par Hong Kong avait effectivement été très élevé.
Merci Michel de Grandi, journaliste aux Échos. Merci aussi à Frédéric Schaeffer, correspondant du journal en Chine. Merci surtout à Nicolas pour son témoignage depuis la ville de Wuhan. Merci enfin à Jean-Claude Manuguera de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.